Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, Voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en Terre Limousine. Bienvenue chez Pierre-Auguste Renoir, peintre français, Limoges 25 février 1841, Cagnes-sur-Mer 3 décembre 1919. Tout au long de sa vie, d'un naturel heureux, Renoir, qui respire la joie de vivre, n'a peint que par plaisir jusqu'à son dernier souffle. La peinture fut pour lui sa seule raison d'exister. Il peint un monde contemporain, idyllique, sans laideur ni pauvreté, que l'on retrouve dans tous ses tableaux, portraits, paysages. La femme fut pour lui une source d'inspiration inépuisable, qu'elle soit habillée ou dévêtue. Ronde, pulpeuse, opulente, la peau prenant bien la lumière, telle est la beauté féminine retranscrite par Renoir. Peintre de figures, de paysages, de nus féminins, de nature morte aussi, il nous a laissé une œuvre pleine de vie et de couleurs d'environ 4000 pièces.
Voyage en Terre de Couleurs.
En cette année 1841, Louis-Philippe Ier règne depuis 11 ans, non sans mal, malgré les insurrections qui se soulèvent de toutes parts et les deux tentatives de renversement de Napoléon III. C'est dans un climat politique agité que voit le jour le 25 février, Pierre-Auguste Renoir. Berthe Morisot est déjà née 11 jours plus tôt, Claude Monet babille depuis le 14 novembre de l'année précédente. Quant à Frédéric Basile, il va devoir attendre la fin de l'année 41 pour pousser son premier cri. Autant dire que nous avons là, réunis sur un an, une partie des futurs impressionnistes, sans oublier Armand Guillaumin.
Après la naissance de Pierre-Auguste Renoir, pouvez-vous nous parler un peu de sa famille et de sa jeunesse ?
Tout à fait. Léonard Renoir, humble tailleur, se marie donc le 17 novembre 1828 à Saintes avec Marguerite Merlet, couturière. Ils auront 7 enfants, dont 2 meurent en bas âge. Ils s'installent à Limoges. Pierre-Auguste, 6e enfant, arrive après Henri, Elisa, Victor, dans une famille ouvrière modeste. En 1944, la famille déménage à Paris, dans un petit appartement rue du Carrousel près des Tuileries et du Louvre. Un autre enfant, Edmond, arrive en 1949, et Auguste doit dormir sur un banc dans le salon où son père a établi son atelier. À 13 ans, il va habiter avec ses parents rue des Gravilliers. Il dessine alors sur le plancher et entre à la chorale de Saint-Eustache, dirigée par le compositeur Charles Gounod. C'est sûr, cet enfant a des dons artistiques, il a une belle voix et un bon coup de crayon. Gounod offre alors à Auguste d'intégrer les chœurs de l'opéra. Mais un ami de la famille lui propose une place de dessinateur en apprentissage dans une fabrique de porcelaine des frères Lévy, près de chez lui. Auguste choisit la peinture. Pendant 4 ans, il va reproduire le portrait de Marie-Antoinette sur des assiettes de porcelaine, et apprend la cuisson au bois. Le soir, il en profite pour prendre des cours à l'école de dessin et des arts décoratifs de la rue des Petits Carreaux. Au cours de ses sorties, il admire au Louvre les chefs-d'œuvre des grands maîtres du XVIIe et XVIIIe, Rubens, Watteau, Boucher, Fragonard. Malheureusement, l'atelier ferme en 1958 dû à l'évolution des techniques, moins coûteuses que la production artisanale.
Mais que va devenir Pierre-Auguste ?
Dès lors, tour à tour, Renoir va vivre en décorant des armoiries pour son frère Henri, graveur en héraldique, peindre sur des éventails ou des stores en toile. Il montre aussi son habileté en exécutant des fresques murales dans une 20aine de cafés de Paris.
La rencontre avec les autres futurs grands peintres.
Son petit pécule amassé, il peut donc maintenant assouvir sa passion, c'est-à-dire se consacrer entièrement à la peinture. Il échappe au service militaire en tirant le bon numéro et il est reçu 68e sur 80 à l'école des Beaux-Arts de Paris en 62. À 21 ans, il entre donc à l'atelier du Suisse Charles Glaire, un des plus cotés de Paris. Celui-ci demande des sommes modestes. Pédagogue éclairé, tolérant. Il a des méthodes moins rigides que les autres peintres académiques. Il envoie dans la campagne ses élèves peindre directement sur le motif des ébauches rapides. Renoir y rencontre Monet, Basile, Sisley, inscrits ici pour les mêmes raisons. En révolte aussi contre la peinture officielle et ce savoir-faire académique. Tous font de fréquentes escapades en forêt de Fontainebleau, près de Chailly-en-Bière, pour travailler en plein air. Un jour, Renoir y rencontre le peintre Narcisse Diaz, ancien maître de l'école de Barbizon, qui le sauve d'une altercation avec des mauvais garçons. Diaz lui conseille alors d'éclaircir sa palette. Charles Glaire n'est pas apprécié de tous ses élèves. Un jour, il demande à Renoir.
« C'est sans doute pour vous amuser que vous faites de la peinture. »
Et Renoir lui répondit.
« Mais certainement, et si ça ne m'amusait pas, je vous prie de croire que je n'en ferai pas. »
Renoir déclara plus tard que Glaire était inutile à ses élèves. En 1864, ce jeune homme nerveux, au visage émacié, à la barbichette épointée, se présente au salon officiel avec une toile intitulée « Esmeralda dansant avec sa chèvre », inspirée de l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Malgré le succès, il détruira par la suite ce tableau, jugé trop sombre et académique.
Ses maîtres.
Delacroix, courbé, rencontré à Marlotte en forêt de Fontainebleau, exerce encore sur lui une influence notable. Il va pourtant s'en détacher au contact de Diaz, Corot, qui annonce déjà plus de liberté et d'authenticité dans le rapport à la nature. Deux de ses tableaux sont acceptés au salon de 1865. Un portrait de William Sisley, père du peintre, et Soir d'été. Mais en 1866, sa toile de grand format, 1m93 sur 1m30, le cabaret de la mère Antonie, est refusée. Les tons sombres et le réalisme qui s'en dégagent n'est pas sans rappeler l'influence de Courbet. Il en est de même pour Diane Chasseresse, présentée en 1867, à qui il manque la sensualité lascive des déesses des salons officiels.
La rencontre avec Lise Tréau.
C'est Lise Tréau, sa maîtresse, qui lui servira de modèle pendant les 7 années que durera leur liaison. Il fit sa connaissance chez son ami Jules Lecœur lors de l'été 1865. Deux enfants naîtront, non reconnus par Renoir. Pierre Tréau, né en 68 à Ville-d'Avray, disparu sans postérité vers 1930. Et Jeanne Tréau, née en 1870 à Paris, décédée en 1934. Leur existence fut révélée début des années 2000. Ce fut un secret de famille bien gardé. Il est amusant de remarquer que les deux premiers enfants reconnus par Renoir s'appelleront par la suite Pierre et Jean.
Voyage en terre de couleur, Pierre-Auguste Renoir.
Renoir se rapproche du fortuné Basile et de Monet avec lesquels il partage le même atelier. Basile l'encourage à peindre en plein air. Monet, quant à lui, recherche à retranscrire la couleur à travers l'ombre et la lumière. Le tableau, Lise à l'ombrelle, est accepté en 68 au salon. Il est accueilli favorablement, même par le critique d'art, Émile Zola, malgré un mauvais emplacement. Renoir se retrouve au Café Garbois, avec Monet, Sisley, Degas, Pissarro, Cézanne, Fantin-Latour, Zola, Nadar. En rupture avec la peinture officielle, il n'accepte pas d'être sanctionné par le jury du salon et revendique une nouvelle façon de peindre, plus colorée, plus moderne.
Escapade en compagnie de Monet.
Renoir et Monet s'évadent souvent le long de la Seine en 1869. Ils vont peindre à la Grenouillère, une guinguette, un établissement de bain près de Bougival. Ces tableaux retranscrivent les débuts de l'impressionnisme. Peindre directement en plein air des scènes de la vie quotidienne, par petites touches en virgule, le trait n'étant plus délimité. Auguste apprend à éliminer le noir de sa palette. Il leur arrivera de poser leurs chevalets côte à côte et de peindre la même scène à la même heure en échangeant leurs impressions. Tous deux ont peint la Grenouillère sur des formats à peu près identiques. Celui de Renoir donne une vision un peu plus rapprochée et une importance aux silhouettes. À cette époque, Pierre-Auguste raconte dans ses lettres à Frédéric Basile que les temps sont difficiles. Il ne mange pas tous les jours à sa faim et parfois n'a pas le sou pour s'acheter des couleurs. Il en est de même pour Monet, mais ils sont heureux de peindre. Deux Renoirs sont retenus au salon de 70. La baigneuse au griffon, qui rend hommage au réalisme de Courbet, représentant Listre et Aunu, debout, tenant sa robe à la main, un petit chien couché à ses pieds, et l'Odalisque, où nous découvrons cette fois une Lise allongée, parée d'un vêtement oriental chatoyant. La vénération sans aucun doute à Delacroix y est retranscrite.
Voyage en terre de couleurs.
Le 19 juillet 1870, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Renoir est envoyé à Tarbes pour dresser des chevaux, loin des combats parisiens. Mais il tombe malade et son oncle le rapatrie sur Bordeaux pour le soigner. Laissons donc Renoir se rétablir en Gironde. Quant à nous, je vous emmène du côté du musée.
Du côté du musée.
Nous avons mentionné précédemment le portrait de William Sisley, père du peintre Alfred Sisley, datant de 1864. C'est la fille du modèle, Madame Ledé, qui le détenait avant qu'il ne se retrouve dans la collection de Bernheim Jeune pour être acheté. Il fut attribué au musée du Louvre de 1952 à 1986. Depuis, vous pouvez le découvrir au musée d'Orsay à Paris. Quant à Diane Chasseresse et l'Odalisque déjà cité, vous les admirerez à la National Gallery of Arts de Washington. De là, vous pourrez bifurquer vers le sud pour retrouver la baigneuse au griffon, au musée des arts de Sao Paulo au Brésil. N'oublions pas Lisa Lombrel qui attend votre venue au musée Fogg Vang à Essen. Et terminons notre visite internationale au National Museum de Stockholm pour le cabaret de la mère Antonie et la grenouillère. Si les grands voyages ne vous enchantent pas, je vous invite alors à venir contempler quelques Renoirs dans nos villes provinciales. C'est ainsi que le musée des Beaux-Arts de Limoges, situé dans l'ancien palais épiscopal, abrite quelques tableaux du maître. Le portrait de Marie-Zélie Laporte de 1864 la représente, les bras croisés sur sa robe grise, boutonnée jusqu'au cou, par pudeur sans doute, se détachant d'un fond sombre. Son frère, Émile Laporte, fréquentait le même atelier Charles Glaire que Renoir. Pierre-Auguste n'avait pas oublié sa ville natale de Limoges. En effet, d'une part, en 1900, il lui offrit le portrait de Jean enfant, ses cheveux blonds aux épaules, tout en couleur, témoin de sa période nacrée. D'autre part, en 1912, le portrait de Colonna Romano. Née Gabrielle Dreyfus, elle fut une actrice, élève de Sarah Bernhardt, et le modèle de Renoir dans plusieurs tableaux.
L'instant pratique, pratique.
Nous venons de refermer doucement la porte du musée pour pénétrer dans l'antre du peintre, c'est-à-dire son atelier. Véritable caverne d'Ali Baba, l'atelier recèle bien du matériel utile à l'artiste. Avançons-nous donc sur la pointe des pieds, sans le déranger, vers ce coin d'étagère pour découvrir quelques toiles vierges. La toile, tendue sur un cadre en bois, appelé châssis, est agrafée ou cloutée. De dimension standard, les châssis numérotés, plus ou moins larges ou hauts, sont classés en trois catégories. Nous avons donc les formats paysage, marine, plus large que haut, et figure, plus carré. Ainsi, un châssis numéro 10 en paysage a pour dimension 38 sur 55 cm, en marine 55 sur 33 et en figure 46 sur 55. Il existe une table standard où à chaque numéro de châssis correspond une dimension bien précise à chaque format. Il faut savoir que le cadre peut posséder dans ses coins internes des petites cales qui serviront à tendre plus ou moins la toile. On parle alors de châssis à clé au lieu de châssis standard. Notre voyage se termine pour aujourd'hui, retraçant les jeunes années de Pierre-Auguste Renoir jusqu'à la guerre franco-prusse. Je vous invite à le poursuivre très prochainement vers sa période impressionniste sur les ondes radiophoniques. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.